Parole d'auteur. Parole d'auteur, Bellita de Bangy.
Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, le Moyen-Âge dans notre région, le Moyen-Âge en Occitanie. Nous allons accueillir François-Henri Soulier pour un livre qui s'appelle Requiem, qui fait partie d'une trilogie, Angelus, Magnificat et Requiem. Ce sont des livres écrits il y a en 2020, 2021 et 2022, ce sont des livres récents. Et l'auteur nous propose une reconstitution d'un Moyen-Âge très authentique qui immerge totalement le lecteur dans l'atmosphère moyenâgeuse. C'est un récit fluide et vivant, appuyé sur une documentation très précise. Les méthodes de François-Henri Soulier fonctionnent parfaitement, un mélange de personnages historiques et un mélange de personnages imaginaires qui collent bien à la réalité de l'époque. L'intérêt de ces romans est que tout se passe dans notre région, entre l'abbaye de Fontfroide, à Narbonne, Carcassonne, l'abbaye de la Grâce, Fangeau, Limoux, Mirepoix, Toulouse, le château de Termes, le château Lastour. Vous y prendrez un réel plaisir, une nouvelle façon d'apprendre l'histoire. François-Henri Soulier, bonjour. Je vois que vous êtes né en 1953. Une bonne date. Et dans la région, à Montauban, je découvre un personnage aux multiples facettes, dramaturge, scénographe, metteur en scène et auteur de nombreux romans. Et je découvre que ces romans sont assez récents, puisque le roman dont je vais parler aujourd'hui a été écrit en 2022, mais vous avez commencé seulement en 2016 à commencer à écrire des romans historiques. Dans les caractéristiques qui vous concernent, je vois aussi que vous avez une formation de comédien, que vous avez joué dans des films, que vous avez fait une formation à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, que vous avez créé il y a 13 ans une compagnie de marionnettes, le Théâtre Aphon, spectacle autour de la mythologie grecque. Vous avez aussi été acteur dans le film, le documentaire sur la fabuleuse histoire de Monsieur Riquet en jouant le rôle de Colbert. Et je précise donc que c'est en 2016 que vous vous êtes lancé dans les romans policiers historiques et finalement il semblerait que vous ne vous arrêtiez pas. Votre maison d'édition pour le roman qui nous concerne aujourd'hui, Requiem, est la maison 10-18, qui est une émission connue certainement des lecteurs, puisque les bouquins font 10 cm sur 18, c'est leur particularité, et c'est une édition qui est facile à trouver partout. Et comme vous verrez à la fin de l'émission, je vous recommanderai ce livre, il faut retenir que Requiem, écrit par François-Henri Soulier, est édité par 10-18. Je vais maintenant laisser la parole à notre auteur, François-Henri Soulier.
Eh bien, bonjour. Bonjour d'abord à Radio Présence et merci de m'avoir invité. Et bonjour aux auditeurs et auditrices. Très heureux d'être à ce micro de nouveau puisque j'y avais déjà été invité il y a quelque temps et c'est un plaisir de retrouver cette antenne. Donc, oui, Requiem, c'est le troisième volume de la trilogie Occitania qui devait parcourir une quarantaine d'années dans notre région entre le XIIe siècle finissant et le début du XIIIe, période de rupture, de transition violente entre un monde avant la France et un monde après, puisque cette région n'était pas le sud de la France qui n'existait pas encore à l'époque, elle n'était pas non plus l'Occitanie, elle était autre chose, c'était une succession de petits comtés, de duchés, de principautés, avec des seigneurs locaux, certains de ces seigneurs étaient d'ailleurs des femmes, et la France telle qu'on pouvait l'imaginer à l'époque, c'était 2-3 départements autour de l'Île-de-France, rien d'autre. Et notre région était surtout pour ce qui est de l'ouest anglaise, et de l'autre côté, elle était très sous influence espagnole, puisque c'était le roi d'Aragon qui était suzerain des terres de Carcassonne. Donc, une géopolitique très loin de celle que nous connaissons aujourd'hui, et qui va basculer dans le XIIIe siècle, où finalement, la couronne d'Occitanie, en tout cas la couronne de Toulouse, va être rattachée à celle de France, et ce sera fini de ces petits royaumes qui ont un petit côté Game of Thrones quand même, hein, très en conflit les uns avec les autres. Ils se battent sans arrêt, ils s'épousent, ils se séparent, ils s'empoisonnent. Enfin bon, c'est vraiment très très violent. Le XIIe siècle dans notre sud-ouest est particulièrement sanglant.
Alors en fait, ce livre de Requiem parle du catharisme, des barons du Nord venus se battre contre le catharisme, de Simon de Montfort. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, puisque j'ai lu dans votre livre qu'à l'époque, on ne parle pas de catharisme du tout.
Ça n'existe pas. Les cathares ne savaient pas qu'ils étaient cathares. C'est une invention très tardive. En fait, le mot a été prononcé très précisément en 1165 par l'évêque de Schronau, en Rhénanie, donc pour qualifier une secte qui posait à peu près les mêmes problèmes à l'Église que les nôtres. Et donc le terme sera repris au XIXe siècle, il sera ensuite revendiqué au XXe siècle par un mouvement identitaire régional, on peut dire anti-jacobin, en copiant un calque un petit peu forcé entre l'invasion du Nord, des barons du Nord sur le notaire, et le jacobinisme centralisateur parisien tel que nous le connaissons dans notre République. La comparaison me paraît un peu tirée par les cheveux, et j'ai voulu remettre ces choses en place, en ordre dans l'histoire, et particulièrement l'idée aussi que les cathares, contrairement à ce qu'on nous a laissé sous-entendre, à ce que les offices du tourisme de la région laissent entendre, ce n'est pas une ethnie, ce ne sont pas les Vikings ni les Basques, c'est simplement une secte dissidente du catholicisme romain, point barre. Il n'y a rien à dire de plus. Donc, vous entrez en terre cathare, ça veut dire vous entrez en terre catholique, mais dissidente. Ça ne veut donc strictement rien dire d'un point de vue géographique, d'un point de vue ethnique encore moins. De même qu'il n'y a jamais eu de citadelle cathare, n'en déplaise à Genelli ou Michel Roquebert, brillants auteurs qui ont en leur temps dit des choses importantes, mais ils ont aussi dit des bêtises parce que il ne peut pas y avoir de citadelle cathare pour une raison très simple, c'est que les cathares refusaient toute propriété, a fortiori celle d'un château, on imagine bien. Ils sont allés se réfugier dans ces forteresses, dans des châteaux qui existaient à l'époque, parce que même les ruines que nous voyons aujourd'hui sont celles de châteaux postérieurs. Hein. Mais dans ce lieu-là, il y avait effectivement des châtelains bienveillants à l'égard des cathares, des cathares de ces dissidents, donc, que l'Église va nommer des hérétiques, et qui les ont accueillis, dans lesquels ils se sont réfugiés, comme bien évidemment le très célèbre Montségur. Mais il n'y a jamais eu de forteresse cathare, il n'y a jamais eu de citadelle cathare. Voilà, ça il fallait le dire, c'est une invention.
Qu'est-ce qui a fait à l'époque que certaines personnes ont adhéré à cette idée nouvelle, de religion nouvelle, qu'on appelle aujourd'hui catharisme par erreur, mais... Oui. Pourquoi les gens ont-ils adhéré à cette religion ?
Depuis le tout début de l'Église catholique, je pense depuis le IIe siècle à peu près, des théories d'interprétation des évangiles ont divergé. Et l'arianisme, par exemple, qui date, je crois, de la fin du 1er siècle, je ne suis pas tout à fait sûr de la date, hein. Pardonnez-moi si je me trompe, mais en tout cas, Arianus pensait à une lecture autre que celle des pères de l'Église officielle, et l'arianisme, comme plus tard les théories vaudois ou albigeoises, vaudois parce que c'était Valdès, hein, un clerc qui s'appelait Valdès, qui a inventé donc cette vision de l'Évangile, est en fait aussi une espèce de mélange avec des croyances plus lointaines autour du manichéisme, autour du bien et du mal, d'un monde divisé en deux. Et très vite, certaines de ces pensées mystiques ont conclu que le monde sensible, le monde réel, était mauvais. Que tout ce que nous appelons la création était l'œuvre d'un esprit, d'un mauvais démiurge. Et que nous étions des âmes perdues, des âmes chutées, des âmes fourvoyées, prisonnières de tuniques de chair. Et qu'il fallait seulement par la pratique du bien et d'une espèce d'ascèse, arriver à regagner le ciel d'où nous étions tombés par une faute originelle. Voilà. Donc cette idée d'un Dieu bon, étranger, totalement étranger à la création, était effectivement une hérésie par rapport au Dieu créateur de la Bible. Et donc voilà, l'hérésie se tourne autour de ça. En fait, pourquoi des gens se mettaient-ils à croire ça? Parce que je crois qu'à cette époque-là, certaines pratiques de l'Église officielle de Rome étaient assez loin de l'Évangile, en fait. En particulier, la violence avec laquelle elle exerçait le pouvoir sur certains pauvres, les taxes qu'elle prélevait, les punitions qu'elle infligeait. Vous savez qu'on pouvait être un mauvais payeur, c'est-à-dire un contribuable qui ne payait pas ses impôts, pouvait être brûlé pour hérésie, puisque l'impôt devait être payé à l'Église. Donc si on ne payait pas, c'est qu'on était contre l'Église, donc on était hérétique, donc on était consumable. Et je pense que de voir des évêchés très riches, alors qu'eux-mêmes étaient dans une grande pauvreté, ça leur paraissait être une certaine trahison par rapport au message de pauvreté du Christ et de partage.
Là, vous avez l'air de dire qu'en fait, c'est surtout les pauvres qui auraient adhéré à cette religion. Or, oui. Ça n'est pas vraiment le cas.
Alors, ça a commencé par les pauvres, parce que c'était un langage qu'ils comprenaient très bien. Le « aimez-vous les uns les autres », c'est un langage que tout le monde connaît.
Entendu, en tout cas. Entendu et peut
avoir envie de partager, surtout quand il y a derrière l'idée de solidarité, de secours, de charité, d'entraide. Je pense que ça, ce sont des choses que des gens modestes ou pauvres peuvent très bien comprendre. Les riches et certains propriétaires se sont mis aussi à trouver que cette thèse religieuse qui disait « il ne faut pas payer d'impôts au Vatican », c'était finalement pas mal, parce que ça leur permet de garder tous les impôts pour eux.
C'était très intéressant pour eux.
C'est exactement la même mécanique qui, trois siècles plus tard, va permettre au protestantisme, de se répandre dans les pays anglo-saxons. Parce que quand Luther dit « nous n'allons pas payer pour la coupole de Saint-Pierre », et nous n'allons pas vendre de messe sous prétexte de sauver des âmes, en fait pour bâtir le dôme de Saint-Pierre, il va se rallier tous les princes qui vont dire « mais bien sûr, nous n'allons pas payer pour ça, sous-entendu, nous allons garder les sous pour nous, donc nous allons devenir protestants ».
C'est terrible ce que vous êtes en train de dire.
Ben, c'est terrible.
C'est une histoire de gros sous,
c'est
finalement.
C'est terriblement humain, oui, malheureusement.
Ou terriblement vrai.
Oui, terriblement vrai. Alors, bon, je pense que dans tout ça aussi, il y a, comme toujours, dans les mouvements, il y a des gens... Vous savez, il y a plusieurs niveaux de lecture d'une idéologie. Et là, cette pensée était pour certains une vérité profonde, une vérité philosophique, une vérité mystique, une vérité religieuse. Pour d'autres, elle était une commodité pour être plus à l'aise dans le monde. C'est tout le problème entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Quand il y a confusion du spirituel vers le temporel, toutes les dérives sont possibles.
On voit dans votre livre des gens haut placés pratiquer cette religion et des gens simples pratiquer cette religion. Donc votre livre pour ça est très explicatif de l'époque.
J'essaie d'être juste par rapport à la connaissance que j'ai eue des documents d'histoire.
Oui. Alors, je dois préciser que ce livre Requiem que j'ai eu la chance d'avoir entre les mains et de dévorer, est vraiment basé sur des personnages historiques et habitant la région, et chers auditeurs, vous êtes comme moi, ça fait une petite piqûre de rappel sur Simon de Montfort, Trencavel, enfin tous ces personnages, le baron de Termes, qui ne sont pas nos intimes quand même, mais dont on entend parler, parce qu'en réalité, ils ont bien existé et ils ont eu une part importante dans cette bagarre entre donc catholiques et cathares. Alors j'aimerais que vous me parliez un petit peu de Simon de Montfort, qui semble dans votre livre au début un personnage, un baron du Nord assez sympathique, et puis à la fin il me semble d'une violence inouïe qui fait peur quand même, puisqu'il est envoyé par le pape.
Oui, alors bon, Montfort est envoyé par le pape, il est surtout crédité par l'abbé de Citeaux, hein, qui est son... Il y a deux chefs militaires importants, il y a le chef spirituel qui est l'abbé de Citeaux, et le chef militaire armé, qui est donc Simon de Montfort, qui est d'ailleurs nommé par Citeaux délégué du pape, hein, représentant du pape. Donc il est indirectement choisi par le pape, mais c'est Citeaux qui le nomme à la tête des armées. Montfort est un type qui a déjà fait plusieurs croisades, c'est un homme de guerre, hein, c'est un type qui est un militaire, on peut dire professionnel, hein. c'est un aristocrate,
c'est un vrai soldat,
certes, mais c'est un aristocrate d'épée. Hein.
Oui.
Je pense qu'il devait être assez cultivé tout de même. Il devait parler latin, probablement, comme d'ailleurs le comte de Toulouse parlait lui-même latin, le lisait bien. Mais c'était un homme de cheval et d'épée, c'était un homme de terrain. Et quand il part, donc missionné pour éradiquer l'hérésie de ces terres que le pape voulait reconquérir, disons, il voulait ramener tout le monde dans le sein de l'Église catholique, telle que Rome l'entendait. Mais Montfort se trouve tout d'un coup confronté à une horreur qui le dépasse. Et je pense très sincèrement que cet homme est arrivé avec, en se disant, bon, deux, trois coups d'épée par-ci, par-là, les types vont se rendre, on reprend les citadelles. En plus, c'était intéressant parce qu'il pouvait redistribuer les terres à ses soldats et à lui-même, bien sûr,
et à ses enfants,
à ses
suite.
Enfants, bien oui. sûr, au premier titre, et à tous les lieutenants qui le suivaient. Mais tout d'un coup, ils se sont trouvés débordés, et surtout débordés par les mercenaires. C'est une chose qu'on n'a pas assez dite.
D'accord.
À Béziers, quand ils prennent la ville, en fait, les armées qui étaient descendues du nord étaient assez faibles en nombre.
Oui.
Parce que la plupart d'entre eux revenaient des croisades, ça ne s'était pas très bien passé en Palestine, ils avaient même pris quelques rapatanées sévères. Donc, repartir comme ça, bon, il n'y avait vraiment que les plus croyants, les plus ardents défenseurs de la foi qui partaient. Et ils se sont trouvés en panne d'hommes, ils ont recruté des mercenaires, c'était des bandes de armées, hein, tout simplement, les mercenaires, à vendre, enfin, plutôt à louer aux plus offrants. Et quand ces types-là sont entrés dans Béziers, les quelques chefs militaires aristocrates du Nord n'ont pas pu contrôler la déferlante de violence, et ça a été viol, égorgement, pillage, enfin, un carnage absolu. Donc ils se sont dit, là on est débordés, ça se passe pas bien, bon. Et donc ça a déjà commencé à perturber un petit peu l'équilibre interne de la croisade. Les types qui s'étaient engagés auprès de Montfort d'ailleurs faisaient ce qu'on appelait le service de quarantaine, c'est-à-dire qu'ils étaient liés par un contrat de 40 jours,
oui.
Et au-delà de ces 40 jours, ils n'avaient qu'une idée, c'était se carapater chez eux, hein, et rentrer dans leur terre de Touraine, du Poitou, de Bourgogne ou d'ailleurs, ou que sais-je, des Flandres. Et ils avaient énormément de mal, enfin les chefs militaires, à savoir Montfort et Citeaux, avaient énormément de mal à garder ces gens-là. Ils ont donc été obligés d'allonger un peu d'argent, mais ils n'étaient pas très hautement financés. Ils étaient obligés d'engager d'autres mercenaires. Et là, ça a pris une tournure absolument catastrophique au siège de Minerve. Il faut dire, bon, pour ceux qui ont connu la canicule de l'été dernier, la canicule de l'été 1209-1210 ont été terribles. Sécheresse pendant des mois et des mois, pas une goutte d'eau, les prés complètement asséchés, les bêtes donc mouraient de faim et de soif puisque l'herbe était cuite. Et ces gens qui arrivaient du nord de Normandie ou d'ailleurs, qui se trouvaient dans cette espèce d'Andalousie surcuite des environs de Carcassonne, prenaient ça assez mal. Le siège de Termes se passe pendant un mois entier dans cette fournaise incroyable. Finalement, les gens de Minerve finissent par se rendre. Et il y avait là 140 ou 150 personnes qui étaient de cette foi, donc dite des autoproclamés des vrais chrétiens. Et là, Citeaux dit, bon, on les passe par le fil de l'épée. Montfort dit non, attendez. Ça s'est passé comme ça à Béziers, on ne va pas montrer l'exemple que nous voulions fuir, justement, l'accomplissant nous-mêmes. Et donc, Citeaux lui dit, de façon assez perverse d'ailleurs, il lui dit, écoutez, c'est très simple, il n'y a qu'à proposer à ces gens de rejoindre le giron de l'Église catholique, tous ceux qui abjurent leur foi et qui viennent reprendre la vraie foi, nous leur pardonnons, nous leur faisons grâce. Sachant pertinemment qu'ils avaient les purs et durs qui étaient enfermés là et qui n'allaient pas lâcher le morceau. Et Simon de Montfort dit « Ok, très bien, d'accord. » Et il prévient les gens. Donc voilà, mesdames, messieurs, vous avez le choix. Soit vous êtes passés au fil de l'épée, soit vous reniez votre foi et vous rentrez dans le giron de l'Église. Eh bien, 140 personnes ont préféré se faire brûler vives plutôt que de renier cette croyance.
C'est terrible.
Oui, alors il faut imaginer quand même ce que c'est qu'un bûcher sur lequel on fait monter en pleine fournaise du mois de juillet 140 personnes à la queue leu-leu, vous imaginez ce que ça représente en tas de bois. Les corps sont à moitié brûlés, ça sent la graisse, la chair humaine cuite, les vêtements, les cheveux, enfin c'est une puanteur abominable. Et ça dure pendant 48 heures. pour que les corps cuisent. Quoi. C'est absolument cauchemardesque. Et je pense que là, mon feu a commencé à dérailler.
Quand ça l'a marqué, cet événement n'a pas pu le laisser insensible.
À mon sens, il en avait vu d'autres. Hein. C'était un homme de guerre, c'était pas détendre, et on n'avait pas su réévaluer le moins comme nous l'avons fait aujourd'hui. Hein. La personne humaine n'avait aucune valeur à l'époque.
Hein. Elle n'avait pas la même valeur qu'aujourd'hui.
Non, la personne humaine devait préparer sa vie durant une belle vie dans l'au-delà. C'est tout ce qu'on devait attendre. C'est-à-dire une éternité de lumière en perspective. Mais le quotidien et la vie quotidienne n'avaient aucune valeur, puisque la mortalité était très fréquente, très grande, les causes de mortalité étaient énormes, il fallait qu'une femme accouche de 10 enfants pour qu'il y en ait 3 qui survivent, donc la vie humaine n'avait vraiment pas de valeur. Ce qui avait une valeur, c'était ce qu'on faisait de cette vie dans la perspective d'un au-delà, voilà, et de la salvation de l'âme. C'est tout ce qu'on peut dire, hein. Mais le moi n'existait pas.
François-Henri Soulier, vous me parlez de cette époque comme si c'était hier et que vous aviez trouvé les informations sur Internet. Je vous trouve, parce que je pense que tout ce que vous... Je suis sûr que tout ce que vous me dites est exact. J'aimerais connaître vos sources pour parler avec autant d'aisance de cette époque.
Oh, vous savez, les sources, elles sont multiples, elles sont énormes. Il y a d'abord de très grands historiens qui ont écrit des thèses extraordinaires, très bien documentées. C'est eux qui sont allés chercher les moindres inscriptions en latin, qui les ont traduites, qui sont allés chercher des actes notariés. Tous ceux qui n'ont pas été détruits par la Révolution française, il y en a quand même encore quelques-uns qu'on a pu sauver de cette époque qu'on appelle le Moyen-Âge.
Mais pour Minerve, par exemple, où avez-vous pu trouver des renseignements pareils?
Qui a
écrit là? Ce sont les notaires?
C'est essentiellement des actes notariés, beaucoup. Et puis alors, il y a très curieusement les sources des témoins de l'époque, particulièrement Pierre Desvaux de Cernay, qui a été l'historiographe de la chose. Il suivait Simon de Montfort sur le terrain et il avait pour mission d'envoyer un compte-rendu au pape et un compte-rendu à Guillaume de Tudel, qui était à Bruniquel ou à Montauban et qui écrivait la chanson de la croisade.
D'accord.
Donc on a vraiment des témoignages d'époque, tout très très bien décrits.
Donc il y avait un journaliste sur place.
C'était un journaliste local, exactement. D'accord. Enfin, un reporteur de guerre qui était là.
Un reporter de guerre, oui.
Alors bien entendu, tout à fait du côté des croisés. Hein. Il n'était pas du côté des méchants,
bien sûr.
Méchants du Sud qu'on va massacrer parce qu'ils le méritent bien. Mais ce qu'il dit est quand même vraiment arrivé. Ça s'est vraiment passé. Il y a d'autres écrits de contemporains qui corroborent d'ailleurs les dires de Pierre Desvaux de Cernay. Donc, la plupart du temps, on est à peu près d'accord sur les faits. On n'est pas souvent d'accord sur les chiffres. Ils avaient tendance à gonfler les chiffres, par exemple le nombre de victimes, ou le nombre de soldats, ou le nombre... Bon, en fait, on peut ramener ça à des proportions. On divise en général par 2, voire par 3 dans certains cas, mais on n'est pas comme dans les grandes guerres homériques, où là c'était des milliers... ou dans la chanson de Roland aussi, où c'est totalement aberrant, les chiffres sont complètement invraisemblables. Mais là, on est plus proche de la vérité, quand même.
Donc, ce Guillaume de Tudel, dans la chanson de la croisade, ça a été une source d'inspiration.
Ah oui, très importante, oui, parce que vraiment, il dit des choses... Alors, lui, il n'y était pas, mais il était renseigné par Pierre Desvaux Cernay, donc là, on peut être sûr que ses renseignements étaient de première main.
Alors, je voudrais faire un tout petit aparté sur cette chanson de la croisade. Parce que, en fait, il s'agit de 9578 vers qui racontent la croisade.
Oui.
Alors évidemment, c'est écrit en languedoc ancien, ce qui n'est pas lisible parce qu'on a encore le...
Oui, par un espagnol en plus, c'est ça
par un espagnol. Donc on a encore ce document dans une bibliothèque en France, je pense à Paris.
Oui.
Mais il y a un auteur qui s'appelle Henri Gougaud qui l'a traduit, je dirais, pour le grand public.
Oui, remarquablement.
Donc ceux qui veulent en savoir un peu plus sur notre région peuvent voir les sources qui ont inspiré François-Henri Soulier.
Oui, Gougaud étant en plus un poète vraiment... qui connaît bien l'Occitanie, qui est de la région, qui a redonné la saveur, le verbe et la verve occitane d'époque dans les mots d'aujourd'hui. Et là, il a été brillant. C'est une adaptation qu'il fait, hein. C'est pas une traduction stricto sensu. Mais c'est remarque, c'est très très fidèle tout de même, hein. C'est vers à vers. Hein. Mais parfois, il renverse les choses, il les transforme, ce qui est très joli d'ailleurs, qui fait un très bel effet.
Alors, dans ce livre, Requiem, qui est donc un roman policier au Moyen-Âge, en Occitanie. Il y a des crimes qui sont quand même assez épouvantables parce qu'à l'époque, les militaires ne sont pas des enfants de cœur et les crimes sont plus importants qu'aujourd'hui. Mais le style employé par vous, François-Henri Soulier, est parfois tellement poétique qu'on oublie l'horreur qu'on a lue deux minutes avant pour après se retrouver dans un cadre, puisque finalement, ces terres d'oc sont belles, la nature est belle, et vous êtes assez poète dans votre façon de parler des choses belles et des choses moins belles.
Écoutez, merci d'avoir lu le roman avec cet œil. C'est vrai que j'essaie de donner... Comment dirais-je ? Je crois que la fiction doit gagner sur le réel, absolument, parce que le réel est souvent très moche, le réel est assez vulgaire, le réel manque d'élégance, manque de gueule, un peu manque de classe. Et la fiction peut redonner ses lettres de noblesse à des choses qui sont...
Mais ce n'est pas de la fiction quand vous décrivez la nature.
C'est un regard, c'est une certaine
forme
de regard.
Oui, c'est un regard sur ce qui se passe à côté. C'est pour ça que je tiens à le préciser, ça rend lisible pour les âmes sensibles. cette histoire de des cathares dans notre région, quand même.
Alors, je décris des choses monstrueuses, mais oui, elles sont monstrueuses, bien sûr. Mais vous savez, je crois que... ce que nous appelons aujourd'hui crimes de guerre était une banalité à l'époque.
Sûrement.
On n'en parlait même pas. Mais c'est vrai que Montfort va faire des choses absolument abominables. C'est une chose que je ne raconte pas dans le bouquin, mais il va faire prisonnière une châtelaine parce qu'elle avait résisté en soutenant son frère. Il va la donner à ses troupes pour qu'ils la violent. Ensuite, la dame va être jetée dans un puits et elle va être lapidée au fond de son puits. Ordre de Simon de Montfort, vous imaginez,
c'est monstrueux.
C'est absolument abominable. Alors, bon, ça j'évite parce que je n'aime pas la complaisance de l'horreur.
Et non, d'ailleurs le livre n'est pas là-dedans.
J'essaie tout à fait de me décaler par rapport à ça. Pourtant, je ne parle que de ça, que de l'horreur. L'horreur de la guerre, l'horreur de la violence, l'horreur d'une sexualité non maîtrisée, animale, bestiale, enfin...
C'est sûr que vous faites allusion à ces prostituées qui suivent les croisades.
Ah oui, oui.
Et ce qu'on ignore habituellement complètement, et si vous pouviez nous expliquer comment ça s'est passé, comment se fait-il que ça soit vrai?
Écoutez, c'est très simple, on ne se souvient pas justement que Saint-Louis, lors de la 8e, je crois, croisade, a embauché plusieurs milliers de prostituées. Et pour une raison très simple, c'est que quand les villes étaient prises, le premier souci des soldats, c'était de se ruer sur tout ce qu'ils pouvaient violer. Femmes, bien entendu, au premier chef, mais aussi enfants, etc. Donc, il fallait éviter ça. Et il fallait maîtriser la pulsion érotique de ces types-là, qui étaient des bêtes de guerre.
Bêtes de guerre.
Et donc, les prostituées servaient à ça. Elles permettaient de faire le siège d'une ville sans trop de dommages pour les habitants, une fois qu'on avait pris la ville. Sinon, c'était intenable. Donc, c'était un moindre mal.
Et, donc, ça date de Saint-Louis.
Ça date même d'avant. Saint-Louis. La plupart des armées en route ont toujours été suivies de prostituées. C'était le cas en 14-18. Hein. On n'en parle pas beaucoup. Mais
on n'en parle jamais dans nos livres d'histoire.
On n'en parle jamais dans nos livres, parce qu'effectivement, c'est pas... disons que d'abord, il y a la honte du sexe d'une part, et puis aujourd'hui, il y a la gêne vis-à-vis de la femme. Hein. C'est un peu problématique. Il y aurait beaucoup à écrire là-dessus, parce que sachant que certaines étaient tout à fait d'accord pour y aller, et que, bon, ça c'est encore une autre histoire, hein, mais il ne m'appartenait pas de juger de ça. Je me suis simplement souvenu de la parole que celui qui n'a jamais péché. Hein. Donc voilà, et je pense que ces femmes, pour la plupart, étaient de saintes femmes, parce qu'elles remplissaient une mission incroyable. C'est pour ça d'ailleurs que je mets un moment un prêtre qui va les héberger, et qui va très bien comprendre à qui il a affaire, bien qu'il soit lui-même aveugle.
Oui, oui, tout à fait.
Et je trouve ce personnage, moi, absolument ravissant, parce qu'il est en marge de l'horreur. Il habite dans un village détruit, qui a été ravagé. Tout le monde est mort, sauf lui. Il est dans sa petite chapelle avec son agneau.
C'est un clin d'œil sympathique d'un prêtre à une prostituée.
Absolument.
Oui,
absolument.
C'est la guerre, l'humain dépasse l'horreur.
Voilà, et il se souvient peut-être de Marie-Madeleine, il se souvient peut-être de telle chose, et donc j'ai trouvé très important de montrer ce côté-là aussi de cette église qui n'était pas toujours fourvoyée.
Oui, ça adoucit la période.
Et puis ces femmes qui retrouvent auprès, vous avez vu, il y en a une qui va tout d'un coup avoir une sorte de révélation.
Oui.
Voilà, enfin, ne dévoilons pas trop l'ouvrage.
oui, parce que je ne veux pas tout vous dire, chers amis auditeurs, parce qu'il faut le lire, ce livre. Donc, je ne donne que des petites bribes d'informations. Je voudrais vous poser une question, parce que je vois que vous êtes un historien extrêmement calé,
non,
sur les motivations qui ont poussé ces barons à aller faire les croisades. Pourquoi aller se faire tuer ou quitter ses terres, ses propriétés, pour aller soit à la reconquête de Jérusalem ou alors tout simplement en Occitanie? Qu'est-ce qui poussait ces barons à aller faire des quarantaines sur nos terres ou ailleurs?
Alors, il y a à mon sens plusieurs raisons. Il y en a une qui est tout à fait estimable, à mon sens, puisqu'elle relève de l'ordre du choix philosophique. Ces hommes étaient d'abord, ne l'oublions pas, des hommes de foi. Dieu est présent partout à cette époque-là, dans les moindres actes de la vie quotidienne, dans les moindres gestes, il y a une omniprésence de Dieu, qu'il soit manifeste au travers de l'Église ou même simplement au travers de la nature. Ces guerriers croient en Dieu, très profondément,
ah oui,
vraiment. Et c'est une des premières qualité du chevalier. La chevalerie a été inventée, n'oublions pas, par l'Église, qui a eu besoin, tout d'un coup, de rationaliser ses comportements violents, ses comportements combattants, combatifs, agressifs. C'était quoi? C'était des sportifs sans sport. Et leur sport, c'était la chasse, dans le meilleur des cas, la guerre, dans le pire. Pourquoi? C'était des types jeunes, en bonne santé, qui s'ennuyaient profondément, et qui donc... Il fallait se battre. Et là, l'Église a eu la grande intelligence d'inventer la chevalerie, de dire « Ok, vous allez vous battre, mais vous allez vous battre pour des causes nobles, d'abord pour le Christ, pour la foi, et ensuite pour la veuve, l'orpheline, le malheureux, etc. » Et quand on voit le serment d'adoubement du jeune chevalier, c'est vraiment un contrat social passé avec son temps, avec son époque, avec sa société, et avec Dieu. Donc, une fois que le jeune mag de 18-19 ans est adoubé chevalier, il est quelque part investi d'une fonction sacrée. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'un pas pour devenir chevalier, moine combattant et devenir templier. C'est tout à fait normal, c'est une suite logique. Pour ceux que la vie monacale n'attire pas, eh ben, ils se marient. Ils ont une femme, ils ont bien sûr des maîtresses aussi, mais peu importe. Mais ils sont avant tout chevaliers du Christ. Et donc, quand ils ont ordre, par évêque interposé, venant du pape, d'aller délivrer le tombeau du Christ, ils y vont. Sans se poser la question, est-ce bien, est-ce mal, est-ce juste, est-ce fondé, est-ce que ça va marcher? Ils y vont, parce qu'ils ont cette espèce de foi absolue qu'il faut délivrer le tombeau du Christ. Et quand on leur dit, l'hérétique du Sud... Et l'ennemi tout autant, si ce n'est plus que le sarrasin ou que sais-je, eh bien ils y vont de la même manière. Et ajoutez à ça la petite carotte qu'on leur fait miroiter, d'avoir davantage de terres et donc d'avoir davantage de moyens, donc davantage d'argent, encore que l'argent au sens tel que nous l'entendons n'a pas vraiment cours tout à fait à l'époque comme nous l'entendons nous, hein, la plupart des choses c'est encore le troc, mais ils vont avoir des moyens. Et là, par exemple, dans le sud, à terme, il y a les mines d'argent de Palérac qui sont non négligeables. Il y a les mines d'argent de Melgueil aussi, Mogoua, je crois, à l'époque, qui sont très importantes. Donc, si on peut faire main basse sur ces mines, en possédant les forteresses qui en sont les maîtresses, eh bien, très bien. Et
oui.
Puis après, il y a le désœuvrement, l'ennui. Vous savez, l'ennui, qui est une des causes de beaucoup de crimes.
Il n'y avait pas aussi le fait que le pape promettait le ciel si on partait...
Ah, mais ça, c'est le corollaire immédiat d'être soldat du Christ. Si
oui.
On est soldat du Christ, c'est qu'on on gagne son ciel, on mérite son ciel.
Oui,
en se
il faut le rappeler, parce qu'aujourd'hui, qui dit militaire, tout ça n'existe plus.
Pas tout à fait. Il existe encore je connais certains militaires de notre armée en France qui pensent qu'ils ont une fonction, comment on peut dire ça? Ils ont cette grande notion aristocratique du service. Et ce service à la patrie, à la nation, n'est pas exempt d'un certain mysticisme. Et même, pour certains, d'une pratique catholique très réelle dans leur quotidien. Je connais des colonels de l'armée française qui ont encore cette vision, on peut dire, chevaleresque. De leur engagement.
C'est magnifique ce que vous dites.
C'est assez extraordinaire.
Enfin, c'est extraordinaire.
Mais
oui.
C'est réel. C'est vraiment, je peux en témoigner.
C'est une minorité.
Oui.
C'est une
bien sûr, bien une sûr.
Minorité.
Bien entendu. L'excellence est toujours le propre d'une minorité.
Ah, comme c'est dommage.
Mais elle est à la portée de tout le monde. L'aristocratie de l'esprit est à la portée de tous. Absolument
oui.
De tous. Il
oui.
Suffit simplement de s'y mettre.
Il faut le rappeler.
Oui, oui, il
c'est
faut
un encouragement.
Mais bien sûr, comme la beauté, comme la joie sont à la portée de tout le monde.
Nous allons faire une petite pause pour écouter la musique moyenâgeuse, parce que dans le livre Requiem de François-Henri Soulier, il y a aussi un troubadour magique qui joue une musique extraordinaire et vous allez l'écouter maintenant. Un peu de douceur au milieu de cette guerre au pays Qatar.
Parole d'auteur. Bellita de Bangy.
Alors, chers amis auditeurs, la musique que vous venez d'entendre, c'est du rebec. C'est un instrument qui existe depuis le 8e siècle. C'est un instrument à cordes en forme de poire avec trois cordes. Et le troubadour principal, un des personnages importants de Requiem, Guillaume de Malpasse, en joue avec et envoûte les personnes qui l'entendent quand il joue du rebec. Donc ce rebec a été joué, donc c'est un morceau qui a été joué par Christian Salès, c'est le groupe Doc qui est de Carcassonne, donc de la région, qui s'intéresse aux musiques moyenâgeuses.
C'est magnifique d'ailleurs, hein. Remarquable morceau.
Voilà, le rebec, un instrument qu'on ne connaît pas très bien, mais qu'il faut mettre dans le contexte de l'époque, puisqu'on en jouait dans les cours, les troubadours en jouaient.
On le retrouve représenté au tympan de l'église de la Abbatiale de Moissac,
oui.
Où il est dans les mains des vieillards de l'Apocalypse qui figurent sur le tympan. Ils
voilà.
Ont tous un rebec dans la main.
Alors retenez bien ce nom, rebec.
C'est un orchestre.
je voulais aussi maintenant vous poser encore quelques questions. Quand vous parlez dans votre livre de la Dame du Cerf, Je vois là un côté, et alors là c'est un personnage de fiction, qui apporte de la douceur au milieu de cette guerre et de toute cette violence. D'où vous vient cette imagination extraordinaire? Et alors, je voudrais dire, il y a un passage qui m'a beaucoup plu, c'est quand le troubadour qui n'est plus jeune découvre la grotte préhistorique et il est absolument subjugué par la beauté de cette grotte préhistorique. Alors je voudrais que vous nous parliez et du beau,
oui, il y a beaucoup de choses dans
et
votre
en
question.
Même temps de cette femme douce qui est la douceur. Qui représente
oui,
la douceur à cette époque.
Elle est la douceur et en même temps, elle est totalement consciente de la violence qui l'entoure.
Tout à fait.
Elle ne la nie pas, elle la voit, elle essaie simplement de l'éloigner, de la tenir à distance, de l'apprivoiser, de la guérir dans certains cas. L'image du cerf, vous savez, bon, pour moi, c'était le pendant de la dame à la licorne, la dame au cerf, c'était... Bon, dans la mythologie, l'imagerie mythique médiévale, le cerf et la licorne représentent respectivement l'âme et l'esprit dans la forêt qui représente le corps. On a cette représentation dans beaucoup de peintures. On en a une, par exemple, ici dans le Gers, à l'abbaye de Flarens, il y a une peinture du 14e, je crois du 15e, qui représente une licorne et un cerf dans une forêt. C'est très clairement l'image de l'âme et l'esprit dans le corps. Enfin, ça se lisait comme ça au Moyen-Âge. Pour nous, ça devient des animaux dans une forêt. Bon, on a perdu ce sens de la lecture mythique de l'image.
Malheureusement.
Mais donc, j'essaie de la réinventer avec cette femme. Le cerf, vous savez, fait partie, comme le cheval, des animaux psychopompes qui transportent l'esprit, hein, qui sont porteurs d'esprit. Dans toutes les mythologies du bassin méditerranéen, on retrouve le cerf, particulièrement chez les Grecs. C'est un animal qui porte l'esprit. Et qui est un animal quasiment doté d'une puissance magique, c'est-à-dire qui met le monde des vivants en contact avec le monde des morts, avec l'au-delà. Et il m'a paru très important de confronter le regard de ce poète de cette époque-là avec l'inconnu. Et l'inconnu, pour moi, c'était la préhistoire. Personne encore n'a montré un homme du Moyen-Âge devant des fresques préhistoriques. Or, je me dis que ça a dû certainement se passer. Qui a certainement eu quelque part dans une grotte illustrée ici ou ailleurs, un type à cette époque-là, ou à bien d'autres d'ailleurs, qui a dû se poser la question, mais c'est quoi ces dessins, c'est quoi ces peintures, c'est quoi ces gravures ou ces sculptures, exactement comme nous la posons aujourd'hui, nous-mêmes, hein, puisqu'on essaie d'interpréter avec beaucoup de difficultés ce que nous avons sous les yeux. Et donc je trouvais assez excitant pour l'esprit de mettre en perspective tous les moments de la pensée humaine, en tout cas sur nos terres, hein, puisque chez nous, le plus loin, c'est Lascaux, hein, ou les grottes ornées, où l'homme a questionné le mystère et a essayé de répondre au mystère par des images. Des images qui étaient peut-être initiatiques, qui étaient peut-être explicatives, qui étaient peut-être purement fantasmatiques, mais à fabriquer donc des images pour essayer de s'approprier le mystère de ce qui est. Et donc je trouvais intéressant de confronter le regard de cet homme du Moyen-Âge, habitué lui au mystère biblique, qui était à peu près le seul Québécois à son temps, avec des réminiscences quand même de l'Antiquité, puisqu'il va être question plus tard du mythe orphique, hein, du poète Orphée, qui en son temps, c'est-à-dire il y a 3000 ans, avait des sectataires, avait donc des gens, des adeptes qui croyaient au mythe d'Orphée. Et c'est pour ça qu'on va le retrouver aussi dans le roman, parce qu'il me semblait important de montrer qu'il y avait de grandes ressemblances entre les croyances cathares et les croyances orphiques. Particulièrement, ces deux catégories étaient véganes. Ils ne mangeaient pas de viande ni de chair vivante, ils ne tuaient pas d'animaux, ils ne s'habillaient pas de laine, ils ne s'habillaient qu'avec ou de cuir, ils ne s'habillaient qu'avec du lin ou des écorces tissées, etc. Et on va retrouver ça dans le véganisme aujourd'hui, où il n'y a plus la partie mystique, on va dire, mais en fait si, il y a un mysticisme ignoré de ceux qui le pratiquent, mais il y a quand même un mysticisme vegan, comme il y en avait un chez les cathares, comme il y en avait un chez les membres de la secte orphique dans la Grèce antique.
Alors, ce Guillaume de Malpas, là, le troubadour, Je voudrais que vous me parliez un petit peu de la place du troubadour à l'époque, parce que dans les livres, habituellement, c'est une place assez minime. Et dans vos livres, pas du tout. Il a une place importante d'intelligence, de raffinement, de réflexion. Et il semblerait que votre vision du troubadour est beaucoup plus vraie que celle qu'on nous transmet habituellement.
Oui, parce qu'on confond le troubadour avec une autre catégorie d'amuseurs, on va dire, publics, qui sont les jongleurs.
Oui, c'est vrai, souvent.
Les saltimbanques qui étaient divertisseurs. Mais il n'était pas impossible à un troubadour d'être à la fois un intellectuel et un artiste de cirque. Mais il était souvent d'abord un musicien, et un poète, c'est-à-dire que c'était avant tout un clerc. C'était quelqu'un qui avait reçu une instruction, donc forcément à l'église, puisque c'était les seuls endroits où on pouvait s'instruire, et qui avait choisi le verbe, qui avait choisi la poésie, qui avait choisi l'écriture, et l'écriture, on va dire, non religieuse, pour s'exprimer. Et donc, il va quitter le monastère, et il va courir, non pas les rues, parce que la rue, c'est quand même d'un faible revenu, il va courir les cours. On parle bien d'ailleurs de l'amour courtois. L'amour courtois, c'est l'amour à la cour. Hein, et quand on parle des grands progrès de l'amour courtois, ça ne concernait guère que les dames des châteaux.
Absolument.
Je ne pense pas que les filles d'auberge étaient très au courant de ce que c'était que l'amour courtois. En revanche, ces types étaient de grands lettrés. Ils connaissaient en général très bien les textes de l'Antiquité. Ils connaissaient les Métamorphoses d'Ovide. Ils connaissaient Aristote. Ils connaissaient beaucoup de choses. Et ils écrivaient pour un public qui était aussi... Pas aussi lettré qu'eux, mais qui avaient connaissance de ces choses. Donc c'était, on peut dire, des intellectuels. Le plus grand, qui n'est pas un troubadour, mais le plus grand intellectuel de l'époque, c'est Abélard, qui est le premier intellectuel français, on peut dire au sens strict au sens du terme, c'est-à-dire qui questionne par la raison le monde sensible. Et les troubadours faisaient pareil, ils allaient en plus de cours en cours, donc ils étaient très au fait de la géopolitique du temps. Ils connaissaient les princes, les seigneurs...
Ils observaient, ils voyaient, ils enregistraient.
Voilà, ils connaissaient bien leurs femmes aussi, avec qui ils avaient parfois d'excellentes relations.
Oui, tout ça, nous ne l'apprenons jamais dans nos livres d'histoire, et c'est important de le savoir.
C'est dommage, oui.
Vous savez,
la place du poète dans l'histoire, on l'apprend rarement à l'école. Hein. On dissocie beaucoup le poète de son temps, ce en quoi on a tout à fait tort. Regardez à quel point Camus était un poète brillant, tout à fait dans son temps. Eh bien, il y a l'équivalent à l'époque.
Alors... Chers amis auditeurs, il ne nous reste plus énormément de temps. Je voudrais vous rappeler que ce livre Requiem est un excellent moment de lecture, autant pour l'histoire que nous découvrons que pour l'imaginaire de François-Henri Soulier qui mêle l'imaginaire à l'histoire. Je voudrais vous rappeler que Simon de Montfort, bien sûr, a existé, que sa femme Dame Alix, la femme de Simon de Montfort, qu'elle appelle Doucire, puisque François-Henri Soulier a un style absolument délicieux pour parler façon Moyen-Âge, mais en même temps que nous le comprenions. Donc, quand elle l'appelle son mari, Doucire, quel chagrin vous afflige encore, et que celui-ci lui répond, croyez bien qu'il n'est de jour où je rende grâce à Dieu du bonheur de notre rencontre, pour vous donner un petit peu l'esprit du livre. Donc, il y a des personnages qui ont existé, Simon de Montfort, son épouse, les enfants de Simon de Montfort,
Trencavel, de Terme aussi,
bien sûr, Olivier de Terme aussi, Trencavel bien sûr, les lieux sont aussi historiques et de notre région, donc vous pouvez vous précipiter sur ce livre qui est un bonheur à lire aux éditions 10-18, donc le livre est sorti il y a un mois, donc vous pouvez le lire, le faire lire et l'offrir. Et je voudrais poser une dernière question à François-Henri Soulier, puisque j'ai eu le bonheur de lire deux de ses livres maintenant que je le connais un petit peu, c'est comment vous, aujourd'hui, avec la culture que vous avez sur le Moyen-Âge, sur les cathares, et qui savait tant de choses et qui écrivait si bien sur cette époque, comment arrivez-vous à vivre dans notre monde d'aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que vous avez aussi un pied au Moyen-Âge, dans notre Occitanie, tellement vous y êtes... Bien, tellement vous en parlez avec tendresse, amour, et générosité et véracité. Comment vivez-vous aujourd'hui?
Je pense que le monde d'aujourd'hui n'est pas très différent du monde d'hier ni d'avant-hier. Ce qui diffère maintenant, ce sont les décors, les objets, la technologie omniprésente, une espèce de précipitation comme ça, mais sinon, c'est toujours le même monde. Nous sommes toujours les mêmes humains depuis la création des temps.
Pas de changement?
Pour moi, hélas, non. Nous, ou peut-être que les changements sont dans une perte de l'esprit, dans une perte de l'émerveillement.
C'est très triste ce que vous êtes en train de me dire.
Oui, c'est pour ça que j'ai pris un bouquin qui s'appelle Requiem. Et j'ai vraiment envie de dire aux gens, réinventez la vie, réinventez l'émerveillement. Ne vous souciez pas d'aujourd'hui, c'est toujours aujourd'hui, il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier. Nous vivons depuis l'aube de l'humanité dans un aujourd'hui permanent qu'il nous appartient d'orner et de porter au plus grand de lui-même, au plus beau de lui-même, au plus beau des jours, et de faire de la vie ce qu'elle est, la possibilité d'un paradis.
Vous pensez que nous avons ce pouvoir?
Bien entendu.
Message lumineux et plein d'espoir. Merci beaucoup, François-Henri Soulier, pour avoir écrit et témoigné sur ce livre formidable, Requiem, aux éditions 10-18.
Merci beaucoup. Merci, Bélita de Bingy. Merci.